Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Auditeurs, téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via notre page Facebook, bonsoir et bienvenue dans votre émission de débat, Le Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler du Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui s'opposent aux sanctions de la CEDEAO. Toute intervention militaire contre le Niger avec l'objectif de rétablir le président de Juin, Mohamed Bazoum, s'assimilerait à une déclaration de guerre au Mali et au Burkina. C'est du moins ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint publié hier par les autorités maliennes et burkinabè. Dans la foulée, la Guinée a affirmé qu'elle refuse d'appliquer des sanctions illégitimes et inhumaines contre un peuple frère et les autorités nigériennes. Elle exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. Comment comprendre cette posture donc de la CEDEAO? Va-t-elle aller jusqu'à une intervention militaire au Niger? Quel regard sur ce élan de solidarité du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée envers le Niger? On en parle donc avec trois invités, mais déjà, il y a un des invités qui manque, il s'agit d'Alousseni Guindo. Nous l'espérons l'avoir d'ici la fin de cette émission. Avec moi dans ce studio, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur. Au téléphone depuis le Niger, Ibrahim Hamidou, analyste politique. Auditeur, auditrice, encore une fois, bonsoir et bienvenue. La première question, nous allons l'adresser à vous, Monsieur Abdoul Sogodogo, vu que vous êtes là, l'autre est au téléphone avec nous. Le putsch au Niger, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire qu'il est consommé, que réellement, à l'heure actuelle, c'est un coup d'État?
Merci. Déjà, je commence à remercier nos auditeurs qui prennent de leur temps pour nous écouter. Et merci pour votre invitation. Alors, dès qu'il y a rupture de l'ordre constitutionnel, alors on peut dire qu'il y a coup d'État. Parce que le président Bazoum qui a été élu il y a, je crois, à peine 2 ans, et donc ce n'est plus lui aujourd'hui qui dirige l'État nigérien, c'est voilà, des militaires organisés qui ont pris en main ce pays. Et donc on peut dire qu'il y a effectivement un putsch.
Ibrahim Hamidou, vous êtes analyste politique, vous participez à cette émission par téléphone depuis Niamey au Niger. Que peut-on retenir des événements qui se passent actuellement à Niamey, au Niger, partout à Niamey et dans les autres villes du Niger actuellement?
Allô?
Allô, monsieur Ibrahim Hamidou, vous nous entendez?
Vous pouvez reprendre votre question?
Alors, je disais, est-ce qu'on peut avoir un résumé de la situation actuelle à Niamey et dans les autres villes nigériennes aujourd'hui?
Il n'y a rien d'exceptionnel à souligner pour le moment parce que tout est relativement très calme. Après les manifestations de soutien au CNSP qui ont eu lieu un peu partout à l'intérieur du pays.
Alors, est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le coup d'État il est consommé, qu'à l'heure actuelle qu'il y a réellement coup d'État au Niger? Parce que certains disent que le président est retenu contre son gré.
Mais madame, je n'ai pas vu dans l'histoire de l'Afrique, en dehors de la situation du Gabon, je ne sais plus si c'est en 62 ou en 63, où le président Léon Ba a été victime d'un coup d'État et remis au pouvoir par les barbouzes françaises. Donc, parler de coup d'État non consommé au Niger, quand vous avez un président que ça fait une semaine il n'exerce plus ses fonctions de président et qu'il y a une organisation militaire qui a fait une proclamation, il faut être de très mauvaise foi pour encore s'interroger sur la réalité du coup d'État ou pas.
Alors,
maintenant, est-ce qu'il y a un coup d'État ou pas? Ça devient des discussions politiciennes. Il faut être pratique.
Alors, vous avez certainement suivi avec nous l'actualité de ces dernières 24 heures. Vous avez tantôt entendu le communiqué conjoint du Mali et du Burkina, ensuite la Guinée également, qui se désolidarise des sanctions de la CEDEAO. Comment cette nouvelle a été accueillie en République du Niger?
Mais avec évidence et reconnaissance. Évidence parce que ces pays ont été avant le Niger victimes de décisions iniques, illégales et injustes de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et particulièrement le Mali, qui a été victime de décisions criminelles dans l'intention juste d'affaiblir les autorités politiques maliennes et ramener le peuple malien à la servitude. Ce que le peuple malien a refusé et a tenu. Donc au Niger, quand ces sanctions sont tombées, nous avons eu, pour nous c'est du déjà vu. Et nous les avons d'ailleurs accueillis avec rigueur, parce que contrairement au Mali qui était seul pour faire face à cette situation, nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a le soutien du Mali et du Burkina Faso, et même de la Guinée qui est un peu plus loin de ce que nous. Le Mali et le Burkina, c'est nos voisins directs. Vous comprenez? Donc, nous, on n'a pas accueilli ces mesures avec inquiétude, parce que nous savons que, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes des frères et nous pouvons toujours compter sur nos frères, maliens et burkinabés.
Merci beaucoup Ibrahim Hamidou. Vous gardez le téléphone pour la suite de cette émission. Le temps de donner la parole à votre co-débatteur, Abdoul Sogodogo. Vous venez d'entendre Ibrahim Hamidou. Il dit que le coup d'État il est consommé au Niger. La page Bazoum est déjà passée et qu'ils ont reçu avec soulagement cette décision du Mali et du Burkina qui cet élan de solidarité. Mais est-ce que cet élan de solidarité... On pouvait c'était à prévoir, c'était prévisible.
Oui, c'est prévisible parce que, comme mon collègue vient de le dire, vous savez, le Mali a vécu cette situation particulière. Le Mali ne s'attendait pas à ces sanctions-là. On pouvait bien penser qu'il allait y avoir des sanctions de façon graduelle contre le Mali. Mais les sanctions sont tombées tout azimut d'un seul coup, et y compris même lui et moi, ce qui était chose un peu inattendue à l'époque par les Maliens. Et donc, ça produit un effet contraire, parce que ça a amené même ceux qui étaient moins engagés derrière les autorités de transition, ça a amené les Maliens à une sorte d'union nationale autour du Mali, indépendamment même de ceux qui ne soutenaient pas le gouvernement à l'époque. Donc, c'est pour dire que le Mali a dû retravailler ses relations avec les États voisins pour pouvoir résister et survivre à cette situation. Ça a amélioré les relations entre le Mali et la Guinée. Le Mali a travaillé à ses relations avec le Burkina. Et même, on a vu le Sénégal qui a joué d'une certaine façon un rôle de médiateur pour une rapide levée des sanctions contre le Mali. Et donc, c'est une expérience duquel les autres pays se sont nourris et sont conscients que
Autrement dit, dans une situation de difficulté, les pays se resserrent et scellent d'autres partenariats.
Exactement. Vous savez que les États sont des entités amorales. Hein. L'État, c'est une création humaine. Et cette création, on cale l'État parce qu'il y a un besoin. L'État a toujours pour fonction de satisfaire le besoin des populations. Et donc, vous voyez, quand on essaie d'isoler un État, l'État en a conscience qu'il y a certains besoins auxquels il ne peut pas répondre. Donc, il va forcément retravailler à d'autres relations pour pouvoir accomplir sa fonction, ce qui peut être parfois des questions de mobilité, de sécurité, etc. Et donc, je pense que l'expérience malienne a été comme une sorte de vaccin pour les autres pays comme le Burkina et autres, qui étaient déjà conscients que ces sanctions pouvaient tomber contre eux, et ils ont pris des pas en avant. Et je pense que ces sanctions ne font plus peur. Ils ne font plus peur, et ça pose la question sur véritablement le rôle de la CEDEAO en matière de démocratisation en Afrique de l'Ouest.
Alors ce rôle, nous allons développer ça davantage, le temps de souhaiter la bienvenue à notre co-débatteur qui vient de nous rejoindre, Alousseni Guindo. Merci d'être là parmi nous. Le merci. Temps de vous désaltérer un tout petit peu, nous allons donner la parole à Ibrahima Hamidou, analyste politique qui participe à cette émission depuis Niamey au Niger. Monsieur Ibrahim, quelles sont les sanctions concrètement? Quelles sont les sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger?
En vérité, moi, quand j'ai regardé le communiqué final de la, du sommet extraordinaire de la CEDEAO et de l'UEMOA, je n'ai pas vu de sanctions de la CEDEAO. J'ai eu comme l'impression que c'est l'UEMOA qui s'est caché derrière la CEDEAO pour prendre des sanctions, parce que toutes les sanctions qui ont été prises contre le Niger sont des sanctions dans le cadre de l'UEMOA, notamment en ce qui concerne les transferts d'argent, en ce qui concerne la fermeture des frontières, en ce qui concerne la fourniture d'énergie électrique. Tout ça, en tout cas, toute la teneur du communiqué que l'UEMOA a lu, jamais je n'ai vu que c'est des sanctions dans le cadre de la CEDEAO. Là où on a parlé de la CEDEAO, c'est qu'on dit « Ah, la CEDEAO dit qu'elle n'exclut pas le recours à la force armée ». Et même ça, je n'ai pas vu, en tout cas, le communiqué de la CEDEAO qui le dit. Moi, j'ai vu un communiqué qui parle de l'UEMOA. Et ça ne m'a pas étonné dans la mesure où, vous savez, le sieur Dramane Ouattara, c'est un habitué du fait. Au moment où la CEDEAO réfléchissait pour la mise en place d'une monnaie commune, il est parti s'asseoir à Abidjan avec Macron, se dépêcher à Abuja au cours d'une session extraordinaire de la CEDEAO de l'UEMOA pour venir dire à ses frères de l'UEMOA, bon, maintenant le CFA, on le remplace par Macron, par l'ECO. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, ils ont eu honte. Ils savent que les peuples du Sahel comprendront vite le jeu de la manœuvre. Donc, ils sont partis dire qu'ils font un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Mais toutes les décisions qu'ils ont prises sont des décisions dans le cadre de l'UEMOA. Et c'est pour ça que, bon, moi, jusqu'à présent, je cherche
En venant à cette annonce que vous venez de dire, la CEDEAO qui n'exclut pas une intervention militaire au Niger, comment vous avez perçu déjà cette annonce-là? Est-ce que ça fait peur? Comment vous l'avez ressenti?
Mais pour moi, c'est un non-sens. Il est impossible que la CEDEAO intervienne militairement au Niger. Parce que pourquoi? La CEDEAO avait déjà, si vous avez souvenance, la CEDEAO avait déjà essayé de monter une force dédiée à lutter contre les coups d'État. Et les chefs d'État-major des pays membres de la CEDEAO ont eu des séances de travail à Bissau, en Guinée-Bissau, sous l'égide du sieur Mbalo. Mais les chefs d'État de la CEDEAO ont conclu à l'issue de leurs travaux à Bissau qu'il n'est pas possible de monter une force conjointe pour lutter contre les coups d'État. D'abord, dans le traité constitutif de la CEDEAO, c'est interdit de se faire la guerre entre soi. On ne constitue pas une entité pour se dire bon, on va se faire la guerre entre nous. Ou bien quand quelqu'un n'est pas d'accord avec l'autre, on lui fait la guerre. Dans aucun traité, vous ne pouvez trouver des résolutions comme ça. Donc,
alors, Ibrahima Hamidou, nous allons donner la parole à vos autres co-débatteurs pour réagir à cette question également qui est sur toutes les lèvres. Alousseni Guindo, est-ce également pour vous une utopie ou une option sérieuse le fait que la CEDEAO envisage une intervention militaire au Niger?
Merci beaucoup. Et il faudrait comprendre quand même que cette résolution, elle ne date pas suite à ce coup d'État qui a été perpétré ou en gestation au Niger. Lors des derniers sommets des chefs d'État de la CEDEAO, il avait été question de mettre en place une force anti-Poutchis qui va se barrer contre les Poutchis. Donc, au regard de ces coups d'État en gestation au Niger, alors...
Vos co-débatteurs, vous venez de prendre le train en marche. Oui. Au Niger, Ibrahim Hamidou dit que ce n'est pas en gestation, le coup, il est consommé. Il y a bel et bien eu coup d'État au Niger.
Bon, s'il est dit ainsi, nous avons reçu quand même les communiqués qui parasitent de gauche à droite. Jusqu'à preuve contraire, on entend quand même qu'il y a des questions des stations aussi. Et tout le débat est ambigu par rapport à cette question. Donc, c'est ce qui me fait dire cette position pour ne pas prendre parti quand même. Hein, il y en a toujours ceux qui s'y opposent encore du moment où le médiateur qui a été envoyé, qui est le président de la transition de Tchad, a pu rencontrer toutes les parties. Donc, à l'accoutumier, si le coup était consommé, alors pourquoi en médiation au niveau de toutes ces différentes parties-là?
Bon, je pense que selon les médias, je me base sur ce que nous avons lu tout à l'heure en suivant l'évolution de l'actualité. L'émissaire du Tchad, Ibrahim Hamidou, si je me trompe, vous allez le dire, il s'est levé de lui-même pour aller faire une médiation. Il dit qu'il n'est pas l'émissaire désigné pour la crise au Niger. Donc, le jeune Déby est parti de lui-même rencontrer Bazoum.
Évidemment, même s'il est allé de lui-même, ce n'est pas mal. Je dis, mais du moment où une autorité est censée être unique dans une république et que si le coup était véritablement consommé, alors pourquoi ce partage du pouvoir d'aller aussi consulter l'ex qui est Youssoufi, aller encore consulter Bazoum et aller encore consulter les Poutsis, notamment les générales qui auraient pris le pouvoir. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai dit que le coup d'État est en gestation et je le dis aussi selon ces mêmes preuves qu'ils avancent. Maintenant, pour revenir, il avait été dit au dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO qu'il faut mettre une force d'intervention pour arrêter les coups d'État dans la zone de la CEDEAO. Donc, si un coup d'État en gestation est entendu dans le Niger, il va de soi naturellement quand même que cette force-là, que son intervention soit entre guillemets mise en attente pour pouvoir remettre les choses en ordre. Maintenant, ce qu'il faudrait réellement articuler, moi, dans mon analyse, c'est de faire de telle sorte qu'on ait des mécanismes à ne pas pousser les militaires à faire des coups d'État. Et ce travail doit être fait et au niveau des politiques, et ça doit aussi être fait au niveau aussi des militaires. Mais le problème dans tout ça, vous verrez souvent que ceux qui s'élèvent pour prendre le pouvoir, c'est souvent pour des raisons qui n'engagent pas le peuple dans sa majorité. Par exemple, celui qui vient de faire le coup d'État au Niger, il a été dit que c'est tout simplement, il devait être déposé pour aller être en retraite anticipée, qu'il a motivé à faire ce coup d'État. Quelqu'un qui est censé garder le président, un garde de la présidence, pour quelle motivation tu dois encore vouloir faire un coup d'État? Est-ce que c'est aussi nécessaire? Donc souvent, il faut aussi se remettre en cause pour poser des questions, les raisons qui entraînent ces coups d'État, est-ce que ce sont des raisons réellement valables? Ou même si c'est des raisons valables, est-ce que ceux qui font ces coups d'État, après être installés au pouvoir, font-ils mieux que ceux qui étaient installés là? Et quand vous allez vous intéresser sur les questions de ceux qui ont pris le pouvoir, vous allez voir que toujours la satisfaction et les attentes du peuple par rapport au développement social et économique restent un mirage. Donc il faudrait se poser toutes ces questions. Mais pour ne pas en arriver là, il faut faire de telle sorte à articuler des mécanismes que les militaires vraiment ne s'approprient pas de pouvoir démocratiquement élu. Puisque ce faisant aussi est un grand mal pour nos pays et même pour nos nations. Pourquoi ? Et au regard de l'argent qui se décaisse pour faire des élections, un président qui a été démocratiquement, légalement élu, et si vous venez le destituer, alors que souvent nos pays africains ne sont même pas en mesure de financer leurs propres élections, voici tous ces problèmes. Au-delà, les sanctions qui s'en suivent, que ce soit des sanctions économiques ou des sanctions diplomatiques, c'est encore, ça pèse sur les paisibles populations. Donc pour moi, il serait mieux de mettre en vigueur des mécanismes pour empêcher que ces coups d'État s'effacent.
Et alors, autre chose, revenons, M. Guinou, à notre question. Est-ce que cette intervention de la CEDEAO peut avoir lieu aujourd'hui? Parce que vous avez commencé votre argumentaire en disant que la discussion de cette force anti-putsch était déjà sur la table.
Absolument. Bon, pour moi, même si elle pouvait être mise en vigueur, je ne conseille pas. Puisque dans toutes les conditions ou dans tous les cas, on dit qu'il y a un cas. Et malgré ces seuls cas qui restent, ce sont les paisibles populations qui sont perdantes. Puisqu'on ne peut pas envisager une intervention militaire dans un pays sans que des innocents, des paisibles citoyens y paient de leur vie ou même de leur bien. Donc au regard des conséquences et des effets collatéraux que cela pourrait entraîner, je n'envisage pas cette intervention. C'est pour cela que je suis pour...
Vous n'envisagez pas, mais est-ce que la CEDEAO aujourd'hui est capable d'y aller?
Bon, je ne dirais pas qu'elle est capable d'y aller. Peut-être que c'est une menace qui est mise sur la table pour pouvoir remettre les choses en ordre. Sinon, au regard même de tous les communiqués qui ont été dits de part et d'autre, vous tomberez d'accord que même ceux qui sont dans la dynamique de porter main forte militairement à leur pays frère ami qui est le Niger, notamment le Mali et le Burkina, qui s'est déclaré en ce sens, à la différence de leurs frères d'armes de Guinée, on voit quand même qu'il y a une certaine un certain dénominateur commun dans ces déclarations, et du côté même de l'Algérie, de la Guinée, du Mali, du Burkina, et y compris aussi de la Russie, aujourd'hui qui constitue un partenaire fiable des Poutsis. C'est pour dire qu'ils sont tous d'accord sur le fait quand même que cette intervention n'est pas sans dégâts collatéraux. Donc au regard de cette analyse qui a été mise en avant, il faudrait vraiment éviter cette intervention militaire au regard des dégâts collatéraux que cela peut avoir directement et indirectement, non seulement pour le Niger, mais aussi pour toute la sous-région et même pour l'international.
Merci beaucoup, M. Guindo, pour vos mots d'introduction. Abdoul Sogodogo, est-ce qu'avec cette situation du Niger, la CEDEAO ne joue-t-elle pas avec sa crédibilité en Afrique?
La CEDEAO a déjà beaucoup perdu en termes de crédibilité dans la gestion des ruptures démocratiques. Il y a eu plusieurs cas. Le dossier malien en est l'exemple le plus illustratif. Parce que j'aime le dire, je l'ai écrit dans mes travaux d'ailleurs même, j'aime bien dire que la CEDEAO est une construction inachevée. Inachevée quand elle dit, elle se confie, elle se donne elle-même une mission de démocratisation. Mais comment justement travailler à l'ancrage de la démocratie dans les différents pays? Alors, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il est tout de suite attendu, notamment en matière préventive. Ça veut dire qu'il faudrait que la CEDEAO puisse jouer un rôle en matière électorale. Alors qu'à l'état actuel, la CEDEAO ne joue qu'un rôle d'observateur ou voilà, de surveillant de règles mineures en demandant aux États de respecter un certain minimum avant d'aller aux élections. Mais elle n'a pas de pouvoir impératif, pouvoir de sanction quand un État organise des élections alors que les conditions exigées par elle-même n'ont pas été respectées. Le Mali l'a expérimenté en 2020. En matière de gestion des crises, par exemple, contre le terrorisme, par exemple, comme le cas du Mali, ou en tout cas les conflits sécessionnistes aussi, la CEDEAO n'a pas été capable de se déployer efficacement auprès du Mali pour arrêter la nébuleuse qui descendait vers Bamako. Il a fallu que le Mali fasse appel à la France, si vous vous rappelez, de la force Serval. S'il y avait effectivement un système de sécurité ou de défense collective en Afrique de l'Ouest, mis en place par la CEDEAO, le Mali n'aurait jamais appelé la France. Et donc, sur beaucoup de questions, j'en reviens par exemple sur la question de la gouvernance. Parce que quand vous regardez les déclarations, les premières déclarations à l'issue des différents coups d'État, vous verrez toujours les questions de gouvernance qui sont évoquées. Notamment, je fais allusion à la corruption. Et donc, la CEDEAO n'a aucun mécanisme effectif, je dis bien, je ne dis pas les textes qui existent, mais effectif, qui permet d'asseoir une bonne gouvernance dans les États membres. Et donc, elle est dans une sorte de réaction aux différents coups d'État. Ce qui fait qu'elle ne fait que suivre quelque chose, une sorte de chimère, parce que, voilà, elle-même n'a pas pu véritablement se donner les moyens qu'il faut pour véritablement traiter les vrais motifs qui semble justifier les coups d'État. Et c'est à ce niveau qu'il faut poursuivre la construction de la CEDEAO, à mon sens. Pour ce qui concerne votre question, l'intervention de la CEDEAO, je pense que sur cette question-là, on a manqué d'imagination, en fait. Parce que quand la CEDEAO doit se déployer, c'est avant tout pour protéger une population, pour que l'expression même de la population qu'elle a manifestée soit respectée. Alors, vous savez, les élections qui ont conduit Bazoum à la tête de l'État nigérien ont été une des élections les plus contestées du Niger. On se rappelle même à son investiture, il y a eu un semblant.
Effectivement, on dit même qu'il aurait échappé à un coup d'État le jour de son investiture.
Exactement. Ça veut dire qu'il y a une contestation congénitale contre Bazoum et son gouvernement. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème de légitimité. Et ce problème de légitimité puis ses sources dans un très long passé. Quand vous regardez la trajectoire de Bazoum lui-même, ou quand vous regardez de façon globale la trajectoire du Niger, son histoire politique, quand même c'est un pays qui a une forte tradition un des célèbres procès nigériens l'a suffisamment démontré. Il a même appelé son article, il a dit « les militaires politiciens ». C'est pour dire que le pouvoir politique n'est en réalité pas un espace où est exclu l'armée au Niger. Ça veut dire que l'armée a toujours été au cœur du pouvoir et se positionne comme étant un véritable acteur politique. Et donc, c'est pour dire que la CEDEAO, la solution envisagée n'est pas celle qu'il faut dans ce genre de situation.
Donc, autrement dit, si je résume tout ce que vous venez de dire, la CEDEAO n'a pas les jalons suffisamment posés pour aller vers une...
Ce que je veux dire, la CEDEAO doit être aux côtés du peuple et non pas aux côtés du pouvoir, en fait. Et quand vous regardez les manifestations à Niamey aujourd'hui, au Niger aujourd'hui, vous voyez que le peuple se reconnaît en ceux qui ont pris le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on encourage les coups d'État. Non, personne ne peut encourager les coups d'État parce que le coup d'État, c'est toujours le signe d'un échec de démocratisation. C'est un échec. Et mais ce n'est pas pour autant qu'il y a cet échec-là dont il faut assumer maintenant et tirer les leçons, qu'il faut la réparer par d'autres systèmes, par d'autres façons de faire qui peuvent encore causer des résultats encore plus néfastes. Comme Guindo vient de le dire, les conséquences, les dommages qui vont en découler vont être énormes, vont être catastrophiques.
Ibrahim Hamidou, de la chute de Bazoum aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui des négociations entamées?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même dire que ce concept, je ne sais pas, de coup d'État en gestation, c'est un concept qui fait un peu rigoler au Niger. Hein. Il n'y a pas de coup d'État en gestation. C'est-à-dire que, bon, on sait que les autres préparent un coup d'État et puis le président est là. Lui aussi, il attend que les gens préparent le coup d'État et on négocie quoi. C'est ce que ça veut dire un coup d'État en gestation. Moi, je pense qu'il ne faut pas embrouiller les gens avec des concepts qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas de coup d'État en gestation au Niger, il y a un coup d'État. Si le coup d'État est en gestation, pourquoi la CEDEAO menace d'utiliser la force contre le Conseil national de sauvegarde pour la sauvegarde de la patrie? Ce n'est pas une affaire de gestation. De grâce, qu'on arrête de prendre le vocable des Occidentaux pour justifier n'importe quel...
Alors, Ibrahim Hamidou, ceci étant dit, en venant donc à notre question, qu'en est-il aujourd'hui des négociations entamées au Niger?
Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a aucune négociation. Et le Conseil, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il est en train de donner son programme de gestion de l'État et il est en train de le faire avec son rythme, avec son agenda et avec ses ressources.
Alors, vous dites qu'il n'y a pas de négociation, mais entre-temps, nous avons vu la visite de Mahamat Idriss début du Tchad. Et des photos, il y a des images qui ont circulé où il était assis à côté du président de Chu, Mohamed Bazoum.
Oui, mais à titre humanitaire, il est venu rendre visite. Mais en coulisses, j'aurais appris, je n'ai pas investigué pour m'assurer de la certitude de l'info, mais j'aurais appris qu'il a été mandaté par la France pour donner de la force pour donner les forces pour attaquer le Niger. Et il a décliné l'offre en disant qu'il n'a pas de force pour attaquer le Niger parce que, d'abord, la frontière nigéro-tchadienne est la frontière la plus paisible pour lui. Avec le Soudan, il a des problèmes. Avec la Centrafrique, il a des problèmes. Avec la Libye, il a des problèmes. Donc, avec le Cameroun, pareil. Avec le Nigeria, pareil. Il y a beaucoup Haram partout. Donc, la frontière la plus paisible qui ne le dérange pas beaucoup, qui ne le préoccupe pas beaucoup, c'est la frontière nigérienne. Et il n'est pas un cascadeur pour venir attaquer le Niger. Il est venu à titre humanitaire, il a rencontré Bazoum qui est contre.
Alors, si Mahamat Idriss Déby est arrivé à Niamey à titre humanitaire, on dit également que la CDAO aurait désigné le sultan de Sokoto au Nigeria, Mohamedou Sadou Aboubakar, comme médiateur. Est-ce que lui, par exemple, si réellement c'est le cas, est-ce qu'il peut réussir cette mission-là?
Madame, il n'y a aucune médiation qui puisse aboutir à quoi que ce soit au Niger. Le coup d'État est consommé. Est-ce que je dois faire comme votre ministre de l'Intérieur? Je dois répéter.
Vous voulez répéter trois fois vous aussi? Donc je me dis, il ne s'agit pas de négociations pour... Je dis, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des négociations entre le Niger et les organisations internationales? Le coup d'État, il est consommé. Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a un émissaire désigné? Comme après chaque coup d'État, on voit des émissaires désignés. Par exemple, dans le cas malien, l'émissaire désigné de la CEDEAO, c'est Goodluck Jonathan.
Oui, mais depuis qu'ils ont tenté avec leur affaire de médiateur, depuis que ça a échoué au Burkina Faso, vous avez vu que la CEDEAO elle-même a abandonné ses affaires de médiateur parce qu'elle a compris que ça ne sert à rien. Vous voyez? Donc, en fait, la CEDEAO a quitté les objectifs de sa naissance. C'était une communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. En 2010 déjà, quand la CEDEAO est intervenue au Niger, on avait remarqué que non, ce n'est pas dans son rôle. Et si vous regardez en termes, dans sa mission elle-même, vous ne pouvez pas trouver dans aucun pays de la CEDEAO un seul kilomètre de route qui serait financé par la CEDEAO. L'insécurité dans le Sahel est tous les pays du Sahel sont membres de la CEDEAO. La CEDEAO n'a déployé aucune cartouche pour aider les armées de ces pays-là.
Alors, c'est compris le temps de donner la parole à Luceni Guindo. Luceni Guindo, il vient de le dire.
Mais madame, j'ai l'impression que vous ne me donnez pas suffisamment de temps. Hein.
Si, juste que le temps est perdu. Nous laisse une dizaine de minutes. Ibrahima Hamidou.
C'est que j'aimerais répondre à Ibrahima.
Non, s'il vous plaît, monsieur Guindo. Ibrahima Hamidou, il nous reste peu de temps pour aller au bout de cette émission. Mais si vous avez votre argumentaire à terminer. Allez-y en 30 secondes.
J'aimerais juste ajouter
que
ces affaires de démocratie la démocratie qui est devenue l'objet essentiel de l'activisme de la CEDEAO. Mais ces affaires de démocratie, c'est avec le protocole additionnel de la CEDEAO. Mais attendez, quand il y a mauvaise gouvernance dans un pays, la CEDEAO ne dit rien. La CEDEAO se comporte désormais comme un instrument au service des puissances pour réprimer des États qui veulent prendre leur indépendance. C'est ça que la CEDEAO est devenue. Nous, on l'a vécu en 2010 ici au Niger, on l'a dénoncé. À l'époque, on dénonçait ça. Les Nigériens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, depuis la crise malienne, tout le monde aujourd'hui en Afrique a compris que la CEDEAO, c'est un instrument au service de l'étranger. Ce n'est plus un instrument pour le développement de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est un instrument pour le contrôle de l'Afrique par les Français et les Américains.
Merci beaucoup, Ibrahim Hamidou. Merci beaucoup, Ibrahim Hamidou. Vous gardez toujours la ligne. Monsieur Guindo, il vient de le dire, la page Bazoum, elle est fermée. Le Niger est en transition actuellement. Alors, quelle lecture faites-vous de ces manifestations aujourd'hui contre la France? Au lendemain du coup d'État au Mali, manifestation contre la France. Au Burkina Faso, manifestation contre la France. Au Niger également, on l'a vu récemment.
Oui, il faudrait quand même noter quand même que les contradictions sont inhérentes à la vie sociale. Hein. Il y a toujours ceux qui vont dire pour, il y a toujours ceux qui vont dire que nous sommes contre.
En tout cas, la contradiction s'amplifie de jour en jour.
Évidemment. Maintenant, ce qu'il faut noter, à reconnaître que tous ces pays, dernièrement, qui ont vraiment eu les coups d'État à leur sein, sont des pays quand même qui sont régis par la Constitution et dont les constitutions aussi condamnent la prise de pouvoir par autre moyen que les moyens démocratiques, notamment par la voie des urnes. Et autre chose, ces pays républicains dits démocratiques, et voir les militaires qui ont pour rôle d'assurer la garantie des vies et des biens sur les théâtres des opérations ou sur toute l'étendue de leur territoire, et s'emparer des pouvoirs par d'autres moyens que les moyens légaux démocratiques, cela laisse aussi d'autres portions de la population à faire entendre sa voix pour condamner ces pratiques-là. Et donc, en républicain, en démocrate, si d'autres aussi populations dans ces nations qui connaissent dans ces derniers temps des coups d'État lèvent leur ton pour dire qu'elles s'opposent à ces pratiques de coups d'État, et c'est dans un cadre de légalité et de légitimité. Donc moi, je vois et je trouve plus légitime que quelqu'un qui est républicain, qui se reconnaît dans les jeux démocratiques, condamné des pratiques anti-républicaines, que quelqu'un qui prend des pouvoirs par les armes et se voit soutenir par ce même peuple-là. Donc pour dire à mon doyen de l'autre côté de l'antenne que nullement, on ne nous a pas chargé avec des vocables étrangers pour venir parler, nous jouissons de notre liberté de penser.
Et on revient à notre émission parce que nos auditeurs et téléspectateurs ont besoin réellement de comprendre. J'ajoute une autre question. Par exemple, le Mali, le Niger, le Burkina, trois pays du Sahel sont déjà en transition, comme je l'ai dit. Est-ce que cette situation doit s'inquiéter ou pas? Parce qu'on sait également que ces trois pays partagent également une zone dite des trois frontières très poreuses.
Absolument. C'est ce que je voudrais dire toujours pour revenir sur la première question. C'est pour dire que les gens ont le droit d'exprimer leurs pensées quand il y a les coups d'État qui sont en jeu ou s'il y a les coups d'État qui sont consommés dans leur pays. Il ne faut pas que ceux qui pensent que les dirigeants gèrent mal le pouvoir, c'est ce qui fait que les militaires s'emparent du pouvoir et que dès que les militaires s'emparent du pouvoir, personne n'a le droit de s'exprimer par rapport à ces pratiques. Non. Et d'ailleurs, je dirais que le Niger est à son record de coups d'État. Et qu'a-t-il changé dans son existence, dans la vie des paisibles populations, si les coup d'État était une solution? Donc, il faudrait qu'on mette plus en vigueur des mécanismes pour nous éviter des coups d'État que le fait de faire penser que les coups d'État étaient une solution. J'y reviens encore.
Alors, quels peuvent être ces mécanismes-là aujourd'hui? Parce que quand on entend, on dit l'insécurité, elle est grandissante, il y a l'économie qui est en branle, il y a toujours des raisons derrière ces coups d'État-là qui sont également, ces raisons également sont visibles sur ces pays en question.
Évidemment, j'ai dit, malgré ces raisons qui sont évoquées et ceux qui font des coups d'État et qui viennent, ça, pratiquement, au regard même de l'ère magistère aussi, les choses ne changent pas. Aujourd'hui, le Burkina et le Mali qui s'apprêtent entre guillemets à porter main forte militairement au Niger. Mais nous-mêmes, on est victime de l'insécurité. Il y a plus de 5 villages qui viennent de se déplacer courant la semaine passée au Mali ici. Et le Burkina même, pour pouvoir faire sortir des cargaisons, des matériels, il faut être escorté par l'armée. Donc c'est pour dire que quand une partie de la population s'exprime par rapport à ces comportements, les gens sont dans leur plein droit de s'exprimer. Le doyen venait de dire qu'il y a une mise en cause des modes de gouvernance des pouvoirs démocratiquement élus et que la CEDEAO n'a pas pris des mécanismes en ce sens qui font que souvent les coups d'État là sont les bienvenus. Comme l'a dit le président de Libéria, si on ne condamne pas les coups d'État constitutionnels, il ne faut pas condamner les coups d'État. J'arrive. Comme l'a dit le président de Libéria, il dit si on ne condamne pas les coups d'État constitutionnels, il ne faut pas condamner les coups d'État militaires. Mais il faudrait quand même dire et le redire que toute prise de pouvoir par autre voie que les voies démocratiques sont anticonstitutionnelles. Donc on ne peut pas quand même encourager la faisabilité des gabésies. Maintenant, les mécanismes qu'il faudrait mettre en place, c'est d'articuler et d'appeler à la responsabilité de ceux qui sont à la tête de certaines institutions, notamment des institutions de lutte contre la corruption. Par exemple, au Mali ici, les dossiers de la lutte contre la corruption incriminent y compris les porteurs d'uniformes, notamment les militaires. Mais où en sommes-nous par rapport à ces jugements ? Avant de remettre toutes ces questions sur la table de la CEDEAO et appeler à la responsabilité des dirigeants de la CEDEAO à asseoir une bonne gouvernance pour que les coups d'État n'adviennent pas. Et même au niveau national, à l'interne même de ces pays, pourquoi les institutions qui ont pour rôle d'empêcher à ce que les corruptions ne se font pas ne jouent pas leur rôle? Aussi, pourquoi si le vérificateur général donne les noms des gens qu'il faut interpeller, ces gens ne sont pas interpellés? C'est là que vous verrez souvent même ceux qui prennent, qui destituent les pouvoirs démocratiquement élus, n'en font pas mieux que ceux-ci. Donc, ce qui serait bien de faire, c'est de faire de telle sorte que nos institutions
soient fortes. Merci beaucoup, M. Guindo. Abdoul Sogodogo, Mali, Niger, Burkina, trois pays dirigés par des militaires. Est-ce que ça peut être un atout également pour la sécurité?
Alors, vous savez, l'intégration ne se fait pas de façon fortuite. Si on essaie de regarder autour du monde, l'un des exemples, en tout cas, d'intégration est réussi, et qui inspire beaucoup, c'est l'intégration européenne. C'est l'intégration européenne. Mais, comme le dit David Mitramné, mais puisque l'État a un rôle à jouer, une fonction, parfois, il prend conscience que ce qui est attendu de lui, il ne peut pas le faire seul. Et quand il ne peut pas le faire seul, il doit s'associer avec toute autre entité qui peut lui permettre
d'accomplir sa fonction, sa mission, sinon il ne servira à rien. Et donc, peut-être si en Europe c'est parti sur la base des questions économiques, la gestion de la sécurité, apporter la sécurité à nos populations, peut désormais amener nos autorités à prendre conscience, à travailler ensemble, à collaborer ensemble, à construire une sécurité collective. Et je pense que c'est de là qu'effectivement nous pouvons résorber ce problème-là. Chaque discours de nos chefs d'État, ils reconnaissent à demi-mot ou ouvertement qu'aucun pays à lui seul ne peut efficacement endiguer le terrorisme. Et pourquoi ça tarde? Et je pense qu'on est arrivé à un sommet, la balle commence à toucher véritablement le fond, et ça va rebondir. Et ce rebond,
alors,
je pense
technique
que ça va se
me
faire.
Alors la signale, Abdoul Sourdou, qu'il ne reste que 4 petites minutes pour clore cette émission. Oui, le temps de faire...
Je termine là-dessus.
Je vais vous redonner la parole, une question en tour de table. Oui. Dernière question. Coup d'État consommé au Niger, la page Bazoum tournée, la CEDEAO qui menace également. Dans pareille situation aujourd'hui, dans cette équation, comment ramener aujourd'hui la quiétude au Niger? Et vous allez terminer votre argumentaire. Et
je terminais pour dire que c'est maintenant que, ou jamais, que ces États doivent effectivement travailler ensemble pour avoir une approche assez globale, concertée, pour lutter ensemble contre le terrorisme et asseoir la sécurité dans nos pays. Alors, coup d'État consommé, je ne reviens pas là-dessus, ça je crois que je l'ai dit en l'entame de mes propos. Mais peut-être juste pour dire que le coup d'État est naturellement un mal, parce que je l'ai dit, c'est le signe d'un échec de la démocratie. La démocratie, moi je l'entends comme étant la participation des populations, des citoyens à la gestion de la chose publique. Ce n'est pas parce que seulement on a désigné quelqu'un par la voie des urnes, et on ne sait même pas des élections triquées, mais dès que la population ne participe pas à la gouvernance, alors nous ne sommes pas en démocratie. Et cette participation, je l'entends, quelle école nous voulons, quel système d'éducation nous voulons, quelle santé nous voulons, quelle justice nous voulons. Ce sont sur ces politiques publiques qui doivent être construites par le peuple. Et quand c'est cela qui fait défaut, alors la politique même et la chose publique devient étrangère, et le sort finalement de celui qui incarne le pouvoir devient par la force des choses une personne isolée et malheureusement laissée à son sort. Et c'est pour cela, à chaque fois qu'il y a Poutine, vous voyez voir les populations commencent à soutenir.
Merci beaucoup, Abdoul Sougodogo. Ibrahima Hamidou, depuis Niamey au Niger. La situation, elle est là. Comment aujourd'hui peut-on ramener, comment aujourd'hui le Niger peut coopérer avec ces pays du Sahel pour ramener la quiétude?
Très bien. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que le Niger ait pu rejoindre le Mali et le Burkina Faso. Parce que contrairement à ceux qui sont dans dans une conception idéale de la démocratie, moi, je ne conçois pas la démocratie sans indépendance ni souveraineté. Or, il n'y a ni indépendance ni souveraineté en Afrique. Donc, je pense que la démarche la plus rationnelle est d'acquérir son indépendance et sa souveraineté et de décider souverainement qu'est-ce qu'on veut, comment on veut s'organiser et avec qui. Et cette étape-là, aucun État de l'Afrique ne l'a encore atteinte. Et je pense que le Mali, le Burkina et le Niger, en s'associant, ils peuvent recouvrer cette indépendance et cette souveraineté dont ils ont été privés depuis des centaines d'années. Parce que c'est cela que je vais dire. Je rappelle à ceux qui crient aujourd'hui démocratie.
Merci beaucoup, Ibrahima Hamidou. Le temps imparti pour cette émission est presque terminé. Le temps de donner la parole à M. Guindo. Pas de quiproquo, il vient de le dire. La souveraineté, elle est déjà annoncé avec la coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina. Est-ce que vous partagez?
Oui, entre guillemets, mais je dirais quand même pour finir, pour éviter que ceux qui même font des coups d'État soient à l'abri des coups d'État, il faut qu'eux aussi répondent aux attentes du peuple. C'est cela vraiment qui convient à nous éviter ces coups d'État. Ce côté est très important, puisque souvent ceux qui font des coups d'État aussi n'en font pas plus que ceux qui sont démocratiquement élus.
Alors, vous l'aurez compris que même s'il y a eu des points de divergence, nos co-débatteurs sont d'accord quand même que pour développer ce pays, il faut la sécurité et que le Sahel également doit coopérer ensemble pour que la paix et la la paix et la quiétude reviennent dans nos concessions. C'est la fin donc de cette émission qui vous a été présentée par Mariam Maïga. Grand merci à nos invités, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur, Alousseini Guindo, analyste des questions sécuritaires, au téléphone depuis le Niger, Ibrahim Hamidou, analyste politique. À la régie son et vidéo avec Salim Djouara et Ibrahim Sanogo, cette émission a été réalisée par Imirana Kilou Maïga. Grand merci à vous et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.
Grand Dialogue.